France Musique. Musicopolis. Verdi, 1871, Le Caire. Pendant une bonne partie de l'année 1870, Verdi travaille à son Aïda. Après avoir élaboré le livret, les scènes et les dialogues avec son ami Camille Dulocle, pendant l'été, il suit de très près l'écriture des dialogues réalisés par le poète Antonio Ghislanzoni. Antonio Ghislanzoni est venu travailler sur Aïda avec Verdi à Sant'Agata, à la campagne. Puis, heureusement pour nous, il est rentré chez lui, ce qui occasionne entre les deux une correspondance nourrie. Verdi lui écrit le 16 août 1870. « Monsieur Ghislanzoni, occupons-nous maintenant du deuxième acte, afin que moi aussi je puisse y travailler. Il n'y a plus une minute à perdre. Le premier chœur, pour le moment, est froid et insignifiant. C'est un récit qui pourrait être fait par un messager quelconque. » Je sais bien sûr qu'il n'y a aucune action, mais avec un peu d'adresse, on peut toujours réussir à faire quelque chose. Il n'y a, écrit Verdi, aucune action dans Don Carlos lorsque les femmes attendent la reine sous les arbres hors du couvent. Pourtant, ce petit chœur et cette chanson, qui a tant de caractère et de couleur dans la poésie française, réussissent à faire une vraie petite scène. Ici aussi, il faut faire une vraie petite scène avec un chœur bien lyrique des jeunes filles qui habillent Amneris et avec une danse de petits Éthiopiens. Voici comment je vois cette scène, écrit Verdi à son librettiste. Salle dans l'appartement d'Amneris. Des jeunes filles habillent la princesse. On brûle des parfums et on agite des éventails. De jeunes Éthiopiens portent sur de grands plateaux des vases, des parfums, des couronnes, etc. Ils commencent à danser au son des castagnettes. Pendant ce temps, le chœur, première strophe. Quel est celui qui arrive resplendissant de gloire et beau comme le dieu des batailles? Deuxième strophe. « Viens, Radamès, les filles d'Égypte t'attendent et entonnent pour toi des hymnes de gloire, des hymnes d'amour. » Amneris, à part, deux vers. « Oh, viens, Radamès, toi seul soupire, toi seul aime la fille du roi, etc. » Il s'agirait de deux couplets de 10 vers chacun. La première strophe avec 4 vers guerriers, la seconde avec 4 vers d'amour et 2 vers voluptueux d'Amneris. Idem pour le second couplet. Je vous écrirai demain au sujet du duo. En attendant, faites-moi au plus vite cette petite scène. Le 17 août 1870, Verdi poursuit ses demandes à son librettiste à propos de la première scène du deuxième acte, le duo entre Amneris et Aïda. Monsieur Ghislanzoni, il y a d'excellentes choses dans le début et dans la fin du duo, bien que celui-ci soit trop long. Il me semble que le récitatif pouvait se dire en moins de vers. Les strophes vont bien jusqu'à « Quelqu'un a éveillé dans ton cœur un doux émoi ». Mais quand par la suite l'action se précipite, il me semble que le mot de théâtre manque. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre lorsque je dis « mot de théâtre ». J'entends par là le mot capable de rendre une situation claire et évidente. Par exemple, les vers « Regarde-moi bien dans les yeux et mens encore si tu l'oses, Radamès est vivant » sont moins dramatiques que les mots « Forlet, direz-vous ». D'un mot, je t'arracherai ton secret. Regarde-moi, je t'ai trompé. Radamès est vivant. Verdi poursuit sa démonstration à l'attention de Ghislanzoni. Et il conclut « Je sais très bien que vous me direz « Et les vers, et la rime, et la strophe ?» Je ne peux répondre qu'une chose. Si l'action l'exigeait, j'abandonnerais volontiers les vers, la rime, la strophe. Pour parler simple et clair, j'écrirais en vers libres si l'action l'exigeait. Au théâtre, il est parfois nécessaire que les poètes et les compositeurs aient le talent de ne faire ni poésie ni musique. Verdi s'interroge longuement sur les formes qu'il doit donner aux divers airs et duos. Il est de tradition, par exemple, de terminer les airs de personnages principaux par une cabalette, c'est-à-dire une partie brillante qui permet de conclure une scène dans une grande progression pyrotechnique. Mais Verdi refuse de céder à la tentation de la cabalette si celle-ci ne convient pas à la conduite dramatique qu'il considère comme indispensable. Ainsi, ne trouve-t-on pas de cabalette à la fin du duo entre Aïda et son père Amonasro, au troisième acte ? Verdi écrit à Ghislanzoni qu'à ce moment-là, Aïda est dans un tel état d'angoisse et de dépression qu'elle ne peut pas et ne doit pas chanter une cabalette. En revanche, il semble qu'il ait cédé à son librettiste pour la fin du duo entre Aïda et Radames, qui se termine dans une totale exaltation. Est un opéra qui peut se lire de bien des manières différentes et qui, pour Verdi, fait appel à de nombreuses ressources. L'orientalisme, la reconstitution historique, les effets de masse en contraste avec le triangle amoureux des trois personnages principaux. Enfin, au niveau géopolitique, la domination d'un peuple par un autre. Les Égyptiens partent en guerre contre les Éthiopiens et ils les soumettent. Un sujet qui, là encore, peut résonner de plusieurs manières. On peut y voir la domination des Ottomans sur les Égyptiens. Le khédive Ismaïl Pacha n'est après tout qu'un vice-roi et il dépend du sultan de Constantinople, ou la domination des Occidentaux sur les Égyptiens, qui vont se retrouver dans une dizaine d'années sous administration britannique. Et pour Verdi, l'empire du pharaon représente peut-être aussi l'empire des Habsbourg, qu'il a lui-même combattu. Les bruits de guerre qu'on entend dans Aïda ont peut-être pour Verdi encore une autre signification. Alors qu'il est en plein dans la composition de son opéra en juillet 1870, la France a déclaré la guerre à l'Allemagne. En septembre, il écrit la scène du triomphe du deuxième acte, alors que la défaite de Sedan le met au désespoir. Le 30 septembre 1870, Verdi écrit à son amie la comtesse Clara Maffei. Il est vrai que la blague, l'impertinence, la présomption des Français étaient et demeurent, en dépit de leur malheur, insupportables. Il reste pourtant que c'est la France qui a donné la liberté et la civilisation au monde moderne. Ne nous faisons pas d'illusions. Si la France tombe, notre liberté, notre civilisation tomberont aussi. Pauvre Paris, ce Paris que j'ai encore vu en avril dernier, si beau, si radieux. Poursuit Verdi. J'aurais aimé de notre part une politique plus généreuse, un plus grand souci de payer notre dette. 100 000 de nos soldats pourraient peut-être sauver la France, et nous sauver. De toute manière, j'aurais préféré un traité avec la France plutôt que cette inertie qui nous attirera un jour le mépris. Nous n'échapperons pas à une guerre européenne, et nous y serons dévorés. Cela n'arrivera pas demain, mais cela arrivera. On trouvera toujours un prétexte. Première scène du premier acte d'Aïda de Verdi, le chœur et l'orchestre de l'Opéra de Rome, dirigé par Georg Solti, enregistré en 1961. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont bien sûr sur francemusique.fr, sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Nadège Antonini pour le mixage et Éric Lancien pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.